Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'AREN, l'émission d'information locale de Canal B, et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un collectif national qui a mené l'enquête sur nos services publics, interview de Julie Lalouette-Geffroy, autrice de la nouvelle enquête du média Splend sur le foncier agricole, de la musique dont une nouveauté, un reportage dans l'ancienne prison Jacques Cartier qui ouvre ses portes ce week-end, et puis recommandations de rencontres. Bienvenue dans l'AREN. Et on commence avec l'info du jour qui n'est pas locale aujourd'hui. Je prends des libertés sur ma propre ligne éditoriale. Il s'agit du collectif national Nos Services Publics qui publie ce jeudi 14 septembre un rapport sur ce sujet, rapport de 160 pages. Ce collectif, il rassemble des agents du service public mais qui ont aussi fait appel à des experts, chercheurs et citoyens. Ensemble, ils dressent le bilan suivant. Depuis 20 ans, les moyens humains et financiers ont augmenté moins vite que les besoins de la population. Avec une activité qui s'est décalée vers le secteur privé, sont concernés les secteurs de l'éducation, de la santé, c'est sans doute le champ où le message est martelé depuis le plus longtemps, mais aussi les champs de la justice ou encore des transports. Oui, les moyens ont augmenté, puisque c'est un argument politique, mais pas assez pour faire face à de grands défis. On les cite, ces grands défis, accélération du changement climatique, vieillissement de la société française, ou encore la massification des études supérieures. Et là où cette évolution, elle pose problème, c'est que les services privés sont plus coûteux pour l'État que s'il menait lui-même l'activité en question, et que le privé ne garantit pas un accueil inconditionnel, qu'il s'agisse de l'école ou encore de l'hôpital. Pas de proposition de la part du collectif Nos Services Publics, si ce n'est de lancer le débat avec ce rapport de 160 pages et d'appeler à une politique moins gestionnaire mais appuyée sur les besoins de la population. Sinon, eh bien, la, je cite, transformation du service public en un service minimum et dégradé ne fera que se poursuivre. C'était l'info du jour. On poursuit avec l'interview du jour. Julie Lalouette-Geffroy, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste indépendante, membre de Splend, ce média d'investigation indépendant breton qui sort sa nouvelle enquête et vous en êtes l'autrice, À l'ombre des SAFER, la guerre des champs, c'est son titre. Et l'enquête est à découvrir en accès libre sur le site splend.org. Dès à présent, on le dit tout de suite, il est possible de faire un don pour soutenir cette chouette initiative. En quelques mots, pour ceux qui sont passés à côté, Splend, c'est un média lancé en 2021. Qui a dévoilé 6 enquêtes autour de questions industrie, santé et environnement, des questions qui sont croisées. Et ce travail d'enquête est mené par des journalistes indépendants, coordonnés désormais par plusieurs salariés de l'association Splend. Au mois de juin, on vous avait reçu pour décortiquer une enquête sur les travers du port. Là, on vous reçoit à nouveau pour une enquête qui a été publiée lundi, veille de l'ouverture du SPAS, le Salon international de l'élevage, qui a lieu à Rennes au Parc des Expos. Est-ce un hasard ?
Non.
C'est volontaire.
Oui, tout à fait. Le SPAS, c'est un événement très important en Bretagne. C'est le salon de l'agroalimentaire en Bretagne qui reçoit de mémoire 90 000 visiteurs l'an dernier. Donc c'est un peu tout l'écosystème agricole et agro-industriel qui est là. Et donc évidemment, ce sont nos lecteurs parmi les autres. Mais effectivement, ce sont quand même nos lecteurs. Donc c'est le bon moment, quoi.
À l'ombre des SAFER, la guerre des champs, c'est le titre de l'enquête que vous avez réalisée, Julie. Alors les SAFER, on va y revenir, ce sont ces sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des organismes départementaux censés réguler des questions d'accès au foncier, aux champs, au terrain. C'est peut-être un sujet qui en fait transpirait déjà lors d'enquêtes menées précédemment, à tel point qu'il fallait y consacrer un sujet dédié, quoi.
Oui, effectivement, parce qu'en fait cette question de l'accès aux terres est un sujet assez central, tout simplement parce que quand on veut élever des porcs ou faire pousser des poireaux, il faut des terres. Mais c'est aussi parce qu'on a remarqué qu'il y avait un consensus général, politique et intersyndical autour de l'importance du renouvellement des générations. Et donc là, que ce soit à l'échelle européenne, nationale, régionale, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un enjeu hyper important, qu'il faut mettre le paquet et que le levier par rapport à ça, c'est l'accès aux terres agricoles. Donc pour une fois qu'on a un consensus agricole ça nous a vachement intéressés. Et on s'est demandé, bah, à partir de cette intention, de se dire, bon, bah, en gros, en Bretagne, il y a un départ à la retraite sur trois qui est remplacé par une arrivée. Quels sont les freins, les leviers et peut-être même les verrous qui empêchent l'installation? Et le but de l'enquête, c'est d'essayer de décrire comment ça se passe, les verrous, pour peut-être essayer de les faire bouger, parce qu'il y a quand même la loi d'orientation et d'avenir agricole qui est en préparation en ce moment, qui a dans ses objectifs premiers le renouvellement des générations.
Comment vous avez enquêté sur ce sujet-là? Comment est-ce que s'est articulé le travail à la fois pour chiffrer cette situation? On découvre aussi des témoignages. Vous avez évidemment réalisé des entretiens avec la SAFER. Comment est-ce que tout ce travail s'est articulé? Sur quel temps?
Ça a été assez long. J'ai commencé à travailler dessus au mois de janvier. Alors, c'est pas à temps plein depuis entre janvier et septembre. Donc d'abord, j'ai travaillé avec un collègue. On était deux journalistes. On a commencé à travailler dessus, c'est-à-dire à lire autant la documentation, les rapports et se noyer dans certains documents juridiques pour bien comprendre déjà l'écosystème, comment ça fonctionne.
On dit qu'il y a notamment eu un rapport à l'Assemblée nationale qui est sorti en 2021 sur le sujet que vous avez dû décortiquer.
Tout à fait, le rapport Sempastous, du nom du député Jean-Bernard Sempastous, qui a produit la loi Sempastous, adoptée fin 2021, application avril 23. Qui a pour but de réguler un peu mieux justement l'accès au foncier. Donc effectivement, il y a ce rapport-là. Il y avait un rapport précédent, le rapport Potier de 2018. Donc c'est des rapports assez conséquents. Enfin, je trouve ça intéressant parce que le fait de se dire qu'il y ait deux rapports globalement sur la même thématique à quelques années d'intervalle montre l'importance de l'enjeu.
Et à quel moment est-ce que vous êtes allé dans les champs à la rencontre d'agriculteurs? On découvre à la fin de l'enquête qu'il y a une boîte noire dans laquelle vous évoquez qu'il y a, comme sur d'autres thématiques sur le sujet agricole, du silence, des difficultés à parler. Il y a des personnes qui témoignent souvent de façon anonyme.
Oui, l'anonymat, c'est quasiment obligatoire parce que c'est vrai que le milieu agricole est complètement imbriqué avec le milieu rural. C'est-à-dire que là où on vit, là où on travaille, c'est les mêmes endroits. Et quand il y a des problèmes dans le secteur du travail, bah, c'est pas je sors de mon entreprise et je vais chez moi. En fait, les gens, ils appellent et ils viennent chez vous dans la cour de la ferme. Et vu que les gens sont très implantés au niveau de leur territoire, en fait, ça les suit après. Et effectivement, il y a une peur, en fait, mais qui s'exprime sur plein de canaux différents. Dans la palette des intimidations, c'est quand même assez large, hein. On peut faire quand même beaucoup de choses. Effectivement, les gens ont peur. Et en fait, tout ça, ce sont des choses que tout le monde sait, mais que personne ne dit. Et par contre, c'est en disant les choses que les comportements inacceptables, en fait, ne sont plus acceptés. Et c'est là que les choses peuvent aussi bouger, et c'est un point qui est assez important, quoi.
L'enquête sur la guerre des champs, elle est construite en 4 chapitres à découvrir sur splande.org. L'idée forte, c'est celle que vous venez d'évoquer, la Bretagne n'installe pas autant d'agriculteurs que ce qui est fixé dans ses objectifs. En parallèle, de très grosses fermes prennent de plus en plus de place dans le paysage. On pourrait se dire, bon, et alors, c'est une évolution comme une autre, ça pose en fait des problèmes multiples.
Ben complètement. Alors d'abord, on voit une tendance générale à l'agrandissement de toutes les exploitations de manière générale. On se rend compte quand même, quand on compare le recensement agricole de 2010 à 2020, donc en 10 ans, les exploitations de plus de 200 hectares ont été multipliées par 2 dans tous les départements bretons. Alors bon, 200 hectares, ça parle pas trop. Mais pour essayer de se rendre compte, la surface moyenne d'une exploitation en Bretagne, c'est 62 hectares. Et on entend quand même une image d'Épinal de manière très récurrente. La Bretagne est une terre d'élevage avec une agriculture familiale sur 62 hectares. Effectivement, c'est une moyenne.
Ce que vous expliquez, c'est qu'on se dirige plutôt vers une agriculture de firme, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui complètement.
Exactement, c'est une tendance et on la voit, cette tendance un peu plus générale avec les exploitations de plus de 200 hectares. Vous parlez avec des agriculteurs, quasiment tout le monde connaît quelqu'un qui a 100 hectares, voire 200. Et après, il y a les très gros et les 1000 hectares, 1500 hectares. Et là, du coup, effectivement, on est sur une ampleur qui est complètement démesurée par rapport aux habitudes bretonnes.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la SAFER qui le dit elle-même, c'est que cette agriculture qui serait une agriculture de firme, ce qu'elle peut avoir de dangereux, c'est qu'elle est plus concernée par les capitaux que parce qu'elle met ce qu'elle donne dans l'assiette de ses clients. J'aimais bien cette image-là. Le premier volet de l'enquête, il cherche à caractériser ce paysage agricole breton actuel et il décrypte en fait les montages complexes qui permettent à certains agriculteurs qui deviennent de véritables chefs d'entreprise de s'agrandir à l'abri des regards. Et alors là, on plonge dans un monde de sigles EARL, SCI, GFA, GIE, SCEA. Heureusement que d'ailleurs, il y a des illustrations pour rendre ces montages complexes texte plus lisible.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une véritable ingénierie juridique en fait derrière tout ça. Et tous ces sigles-là, ce sont des formes juridiques. C'est pas pour le plaisir de faire une collection. Ça a évidemment un sens et un intérêt. L'un d'eux, en tout cas, c'est que je sais pas si c'est l'intention des personnes qui pratiquent ça, mais en tout cas, ça empêche en fait la SAFER de pouvoir intervenir. En fait, pour pouvoir se reposer un peu le cadre, il y a deux régulateurs en France. En fait, il faut pouvoir avoir les terres. Donc là, c'est soit de la vente, soit un bail, le fermage, et aussi l'autorisation d'exploiter. Et du coup, le régulateur pour les ventes, c'est la SAFER, et pour les autorisations d'exploiter, c'est la CDOA, qui réunit les services de l'État et les représentants du milieu agricole et rural.
C'est la Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Exactement. Et donc, si on reprend le côté SAFER sur les ventes, la SAFER peut, est un outil qu'on nous envie à l'échelle européenne, parce qu'il y a cette logique de régulation, de lutte contre la spéculation foncière, donc d'empêcher que les prix soient trop élevés, mais aussi d'orienter l'agriculture vers les objectifs de la politique agricole française. Donc ça, c'est en théorie. Et après, il y a la pratique. Et là, en fait, il y a un angle mort, mais en fait, un trou dans la raquette énorme. C'est-à-dire qu'au lieu de, si je vends une entreprise agricole en une seule fois, alors la SAFER peut intervenir, dire « Ah, le prix est trop élevé, il faut que ce soit un peu plus bas, etc. » Par contre, si je la vends en trois parties, et pour pouvoir vendre une entreprise en trois parties, j'utilise une de ces entreprises avec ses sigles compliqués, et je fais des ventes en fait par part sociale. Donc je vends une petite tranche, une deuxième, et hop. Et une vente en trois fois fait que la SAFER ne peut pas intervenir juridiquement. Elle n'a pas le droit de le faire. Et il y a quand même tout un champ comme ça des ventes qui échappent complètement à la SAFER. Et c'est comme ça qu'on arrive sur ces montages où en cumulé, on est à 1000 hectares. Et même les services de l'État, derrière, ne voient pas. Quand on leur demande combien y a-t-il d'exploitations de plus de 1000 hectares en Bretagne, on ne sait pas. On ne va pas regarder ces informations-là, ce qui pose quand même question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en application une politique agricole régionale quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas le paysage agricole breton.
Ce qu'on découvre aussi, c'est que parmi ces fermes qui s'agrandissent de façon très importante, on retrouve le secteur de l'élevage, particulièrement porcin. Vous donnez des exemples d'empires qui se sont bâtis en décryptant ces montages juridiques. Plusieurs éléments sur ces SAFER, donc SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, un outil que vous décrivez comme rouillé dans un chapitre qui est consacré. Sur le papier, elles défendent plutôt l'installation que l'agrandissement. Vous venez de le dire, elles n'ont aucune visibilité sur le nombre de très grosses exploitations. Elles sont assez marquées de la patte FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. C'est le syndicat majoritaire, acteur de l'agriculture intensive. Là où elle joue son rôle, c'est sur l'encadrement des prix du foncier. Ça marche. Quand on regarde d'ailleurs en Europe, la France est plutôt un bon élève.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle locale, en fait, il y a beaucoup de critiques sur un outil justement qui ne fonctionne pas, pas bien, pas assez, ou au contraire qui est trop intrusif, tout dépend des points de vue. Mais quand on regarde à l'échelle européenne et les prix à l'hectare au niveau de l'Europe, ben en fait, on se rend compte des écarts. Donc évidemment, on parle en moyenne, mais en gros, en France, la moyenne, c'est 6 000 euros l'hectare. Quand on prend l'extrême, le maximum aux Pays-Bas, on est à 90 000 euros l'hectare. Les prix les plus faibles, c'est plutôt vers la Croatie, la Bulgarie, on est à 3 000 euros l'hectare. Mais la moyenne sur des marchés qui ont des points communs avec le marché français, je pense à l'Italie par exemple, on est à 30 000 euros l'hectare. Donc à 6 000 euros l'hectare, en fait, c'est assez simple. Quand on veut s'installer et lancer son entreprise, eh ben, il faut investir dans le bâtiment, le matériel, les bêtes, etc. et aussi les terres. Donc quand le prix de base d'investissement, c'est 6 000 euros par hectare, et généralement, il n'y a pas un seul hectare, bon, bah, et ou si c'est 30 000, évidemment, ça fait une énorme différence sur la capacité à s'installer. Qui peut sortir autant d'argent? Quelle banque va le suivre? Et du coup, avec quel modèle agricole derrière?
Je continue sur la SAFER. On découvre dans votre travail d'enquête qu'elle a certains pouvoirs, notamment de choisir dans certaines situations le repreneur d'une ferme. Ça peut notamment créer des situations assez douloureuses. On le découvre parfois où l'exploitant agricole ne choisit pas celui qui va lui succéder. Là où ça coince vraiment, c'est que la SAFER, finalement, malgré ses pouvoirs, là sur le papier, intervient en fait assez peu parce que rien ne l'impose aux agriculteurs. On peut aussi aller chez le notaire et c'est tout à fait possible.
Oui, complètement, c'est tout à fait possible et tout à fait légal. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs options et en fait la SAFER n'est pas forcément un interlocuteur premier pour gérer les ventes, ni toutes les ventes. En fait la SAFER peut intervenir en Bretagne sur un peu plus de la moitié du marché agricole et elle intervient sur finalement assez peu. C'est-à-dire que le marché agricole global, là je vous le dis de mémoire, mais en gros je crois que c'est 45 000 hectares par an et elle peut intervenir sur à peu près 25 000 hectares et de fait elle est intervenue sur 5 ou 6 000 hectares. Donc on voit quand même effectivement cette différence-là quoi.
Dans la troisième partie de l'enquête, mais le mieux c'est d'aller la lire sur splend.org, on arrive au sujet de la violence dans ce contexte de tension dans l'accès au foncier. On y découvre, sans grande surprise si on a lu l'enquête de Nicolas Legendre, Silence dans les champs, des témoignages d'intimidation, de pression lorsque plusieurs agriculteurs ou agricultrices convoitent un même terrain. Et ça donne l'impression parfois surréaliste que c'est finalement parfois le premier qui met le pied dans le champ qui gagne.
Bah, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est assez saisissant et à force de rencontrer des gens, il y a vraiment cette idée finalement que les règles du jeu ne sont pas valables pour tous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de respecter les règles, qui remplissent les dossiers, qui font les demandes, qui font tout comme on leur demande de faire. Et finalement, et bah, paf, il y a quelqu'un qui rentre dans le champ avant.
Parfois sans autorisation d'exploitation.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ce sont des exploitations illégales. Et voilà, c'est la technique du fait accompli, bon, qui est assez efficace de manière générale. Hein, mais, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Et ce qui est pareil, que je trouve très intéressant, c'est quand on demande au service de l'État comment est-ce que vous faites les contrôles. Parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre un agent des services de l'État derrière chaque agriculteur sur chacune des parcelles pour vérifier qu'il a bien son autorisation d'exploiter dans la poche. Évidemment, c'est compliqué. N'empêche que quand on leur demande comment est-ce qu'ils font ces contrôles-là...
C'est l'extrême inverse, c'est qu'on s'appuie sur les voisins.
Exactement, on s'appuie sur le signalement de la personne lésée. Et quand on leur demande, eh ben, une fois que ce signalement il est fait... Comment est-ce qu'après, quand vous envoyez un courrier de mise en demeure en disant bah, l'exploitation est illégale, vous avez un mois pour partir, eh ben, ils nous répondent qu'on compte sur le signalement des personnes lésées. Donc évidemment, c'est un boulevard à la violence, enfin à l'intimidation de manière générale, qu'elle soit verbale ou physique. Et c'est compliqué quand même d'exposer comme ça le voisinage à ce genre de choses. Et donc évidemment, bah, la violence, les intimidations peuvent complètement avoir cours.
Le résultat, c'est que la relève agricole ne passe pas. C'est le sujet du quatrième et dernier chapitre, volet de cette enquête. Finalement, le résultat de ces tensions dans l'accès au foncier en Bretagne avec de nouveaux agriculteurs, pour certains non issus du milieu agricole, les NIMA, pour lesquels l'extraction du modèle dominant devient un frein, parce qu'on n'est pas dans ce réseau-là dont on a parlé. Mais il existe des contre-réseaux pour les soutenir, c'est ce qu'on découvre dans ce dernier chapitre. Vous citez entre autres Terre de Liens, on peut peut-être en dire un mot, je ne connaissais pas ce collectif qui est citoyen, je crois.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une association qui est adossée à une foncière. Son but, c'est de faciliter l'installation des agriculteurs parce que, comme on le disait, vu le prix à l'hectare, ce n'est pas forcément facile de sortir ce billet-là. Du coup, Terre de Liens a installé 62 exploitations en Bretagne depuis 2006. Et Terre de Liens, effectivement, en fait, utilise de l'épargne citoyenne pour pouvoir acheter des parcelles et ensuite, ils vont installer un agriculteur de Donc finalement, Terre de Liens reste propriétaire du terrain qui est elle-même possédée par les citoyens. Donc on est, enfin là, il y a une démarche citoyenne sur la réflexion des terres agricoles et la logique des communs, enfin qui est vraiment développée là par Terre de Liens là-dessus. Et après, on installe un agriculteur dessus. Donc effectivement, il y a des alternatives. Et globalement, en fait, il y a ce jeu vraiment de contre-pouvoir qui est en train d'essayer de s'installer, particulièrement en fait avec toute la mouvance de la gauche paysanne là-dessus, quoi.
On termine avec un mot sur celui qui signe les illustrations. Vous aviez déjà travaillé avec lui, il est rennais. Des illustrations qui sont les bienvenues, je trouve, vu la complexité du sujet, avec notamment un énorme jeu de loi pour voir la complexité pour acheter un terrain quand on est agriculteur. Vous allez en faire des posters ?
Ouais, je pense qu'on pourrait faire des posters, parce que c'est vrai que ce jeu de loi, il résume un petit peu l'ensemble de l'enquête, et c'est vraiment d'essayer de se dire, bon, je veux m'installer, comment est-ce que je fais ? Ça permet d'expliquer les deux outils, il faut avoir cette idée en tête pour s'installer, il faut avoir les terres, en propriété ou par un bail, et une autorisation d'exploiter, et il faut vraiment les deux. C'est-à-dire que même si on a l'autorisation d'exploiter, si le propriétaire ne veut pas me le louer, et bien en fait, ce n'est pas possible. Le poids des propriétaires est très important. En même temps, il n'y a que la SAFER qui est en capacité finalement d'imposer, de forcer un propriétaire à louer ses terres ou à les vendre à quelqu'un d'autre. Elle a une capacité qu'on appelle le droit de préemption, que même le président de la SAFER appelle une bombe atomique, parce qu'effectivement, c'est un pouvoir qui est très 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 fort, quoi. Mais effectivement, ce jeu de loi est assez intéressant. On pourrait même rajouter des cases vides en disant, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles techniques de contournement qui se font jour et qu'on pourrait compléter et faire évoluer avec le temps.
Une illustration de Jean Leveugle, des savoirs ambulants, qui est spécialisé dans la médiation sur des questions complexes. Vous pourrez le découvrir en ligne sur splend.org. Je vous représente Julie Lalouette-Geffroy. Vous êtes journaliste indépendante et membre de Splend, ce média d'investigation breton qui vient donc de sortir en début de semaine sa nouvelle enquête. Et vous en êtes l'autrice, À l'ombre des Safer, la guerre des chances, et à découvrir en accès libre en français mais aussi en breton sur le site splend.org. Et on vous retrouve chez d'autres partenaires, Mediapart, France 3 Bretagne ou encore Reporter. Et on le redit, si l'accès est libre, ce travail a quand même un coût et on peut vous soutenir en faisant un don en ligne. Et il y a la possibilité de défiscaliser ce don. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Les pauvres prennent la voiture, aiment le plastique, ils abîment la nature. Les pauvres sont feignants, fument trop, font leur course à Auchan. Les pauvres sont agressifs, ils font du bruit, leurs gosses sont mal polis. Ils prennent des douches trop longues, ils mettent le chauffage en hiver. Toi tu télétravailles dans ta ville en terre paille. Tu pars en vacances en voilier, tu parraines un bébé chimpanzé. Tu portes des slips en peau de banane, entièrement fabriquées en France. Oui t'as acheté des chaussures en plastique, mais pour chaque paire acheter un petit arbre planté.
J'aimerais que tu meurs dans ton lombricomposteur. Que les vers te digèrent, que tu retournes à la terre. Il faudrait que tu meurs. Que puissent pousser les fleurs.
T'as planté un arbre, hein, tu veux une médaille, hein. Quand un pauvre utilise une paille, tu en fais tout un foin. Tu préfères boire dans des nouilles. Responsable, éco-transition chez Total. Parfois tu rentres, tu cries, c'est pas Versailles. Ici, t'as pas la lumière à tous les étages. Tu ne vas plus au Bahamas, tu te laves le cul. Un jour sur deux, tu tires la chasse. Une fois sur trois, ta femme de ménage essuie les plâtres. Ton rêve c'est que les gens respirent l'air pur, qu'ils se reconnectent à la nature. Que tous les gens puissent être heureux, mais ils sont un peu trop nombreux.
J'aimerais que tu meurs dans ton
Le morceau Sauveur du Monde, interprété par les Vulves Assassines. Ça veut dire que vous êtes sur Canal B. Et c'était la sélection musicale de l'invité qu'on vient juste de quitter, Julie Lalouette Geffroy. Un titre à retrouver sur l'album Das Kapital, qui est sorti en 2022, et dans lequel le groupe parisien semble bien remonter contre un responsable éco-transition chez Total. La reine, l'émission d'information locale de Canal B, se poursuit avec le reportage du jour. Et cette semaine, je consacre plusieurs reportages aux journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Beaucoup de choses sont proposées à Rennes durant le week-end, donc les 16 et 17 septembre, notamment par l'Office de tourisme Destination Rennes. 3 des 4 visites affichent complet et la dernière, celle de la prison de l'ancienne prison Jacques Cartier, risque d'attirer les foules. Je vous propose donc, pour ceux qui n'auront pas le courage de faire la queue, de découvrir le lieu les yeux fermés avec un reportage ailleurs dans le département. Rennes Métropole, Fougères, Saint-Malo, Baie-du-Mont-Saint-Michel et Vitré Communauté ont également préparé pas mal de choses. Programme en ligne sur le site journée-patrimoine35.com.
Une fois le portail franchi, on a déjà, il n'y a absolument pas de recul. Et donc c'est volontaire aussi de la part de la loi, de l'architecte, c'est de donner cette impression d'une justice qui est alors intraitable, sévère, mais qui est solidement aussi posée, quoi. Et donc le bâti reflète ça. Alors après, Jean-Marie Laloy, c'est l'architecte départemental, donc... Lui, il a dans ses missions en tant qu'architecte départemental la construction des prisons. Il n'y a pas une prison dans chaque ville. Ça sera le cas jusqu'en 1947, parce qu'après la guerre, il y a une réforme. Et à partir de 1947, toutes les prisons versent vers l'État.
Qu'est-ce qu'on fout de prison sans rien ? Qu'est-ce qu'on fout de prison sans rien ?
Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine à Destination Rennes. Nous sommes ici donc dans l'enceinte de la prison Jacques Cartier, alors qui porte ce nom puisqu'elle est construite en bordure du boulevard qui porte ce même nom. Et on est sur un lieu qui n'est plus une prison depuis 13 ans maintenant, puisque les derniers prisonniers l'ont quitté en 2010 pour intégrer le nouveau centre pénitentiaire qui est à Vezin-le-Coquet. Et donc c'est un lieu qui s'ouvre à la visite à l'occasion de ces journées européennes du matrimoine et patrimoine. Le week-end prochain, depuis l'année dernière, en fait, l'initiative avait été lancée en 2022, et donc de permettre aux Rennais et puis au public qui découvre Rennes justement à cette occasion d'aller en prison et donc de franchir le portail pour découvrir ce lieu, alors qu'il y a une part d'insolite parce que forcément c'est pas anodin, on n'entre pas dans une prison comme ça, comme d'autres types de bâtiments. Et puis, forcément, ça intrigue ces hauts murs de protection et qui ceinturent le site, de voir comment c'est aménagé derrière, quelles sont les différentes parties qui composent l'édifice.
Des éléments du milieu carcéral qui sont toujours là et qu'on, là, on est à côté des barbelés.
Tout à fait. Et donc, ça permet aussi de lire, au final, l'évolution d'un site qui, au regard de l'histoire, est assez proche de nous, puisque cette prison, elle a été édifiée à la fin du 19e siècle. Et donc, elle a une durée d'existence en tant que prison qui dure un peu plus d'un siècle. Donc, du schiste pourpre qu'on voit ici, parce que c'est la pierre qu'on trouve en creusant le sous-sol rennais. Un peu de granit qu'on va retrouver en encadrement de portes. De la brique qui souligne aussi, finalement, l'architecture. Et donc, c'est un plan qui forme une croix. Alors, c'est parce qu'on a deux ailes principales qui se croisent. Et d'imaginer que cette prison, qui est construite à partir de 1898, qui ouvre ses portes en 1903, donc il y a 5 ans de construction, mais à l'époque de construction, on est en pleine campagne ici. Ce qui est difficile à imaginer aujourd'hui.
Étant donné que le centre s'est étendu.
Et donc ça rejoint aussi la vision, finalement, de l'univers carcéral de cette époque-là, qui est de mettre les prisons à l'extérieur des quartiers ou des centres urbains. Parce qu'on est aussi dans un processus de rédemption, d'une certaine manière. La nouveauté aussi, qui est propre à la deuxième moitié du 19e siècle, c'est d'associer en fait deux modes d'enfermement. C'est-à-dire que c'est un type de prison ici qui est dit panoptique. Panoptique, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance qui s'opère de la part du personnel de gardiennage, mais plutôt en hauteur, et panoptique parce qu'elle a une vue globale sur l'ensemble de l'enceinte, ce qui permet en fait d'avoir un œil sur tout sans que les prisonniers aient le sentiment d'avoir justement toujours quelqu'un qui les surveille. On le voit, si vous voulez, avec la tour qui est au centre en fait du bâti, qui agit vraiment un peu comme un mirador, une tour de contrôle, mais qui surveille, qui permet d'avoir un point de vue sur l'ensemble.
Comme une verrière.
C'est ça. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que chaque détenu est enfermé dans une cellule individuelle. Et ça, c'est aussi une révolution parce que, alors, on n'est pas les, c'est pas les Français qui sont les précurseurs en la matière, ce sont les Britanniques là aussi. Mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans cette deuxième moitié du 19e. Et donc, la Troisième République, elle est aussi dans cet esprit-là de respecter la dignité finalement des détenus avec un traitement qui est considéré comme beaucoup plus humain que ce qu'on pouvait faire en fait par le passé. C'est près de 238 cellules individuelles qui sont donc aménagées. Donc là, il y a quelques pigeons farceurs qui sont niches là maintenant.
Je donne peut-être quelques éléments sur le programme. Le public pourra donc découvrir l'intérieur de la prison Jacques-Cartier durant le week-end. La particularité, c'est que les visites sont libres, gratuites et sans réservation entre 10h et 19h, samedi et dimanche. Et puis sur place, en plus de la visite, le public pourra découvrir une rétrospective 2023 sur le devenir du site, un travail photographique et citoyen. Il y aura la proposition d'Anne Fromrein, mais qui sera détaillée plus dans le détail dans l'émission de mon collègue Crème de la crème, et puis des visites sensibles. Il faut dire que l'année dernière, il y a eu une foule, ce qui amène à prévoir des panneaux avec un temps d'attente très long. Comment est-ce qu'on explique la fascination du public pour un lieu en particulier du patrimoine rennais, par justement le côté inaccessible durant des années en fait ?
Le premier, c'est celui-là, effectivement, des lieux qui sont facteurs finalement de diverses pensées, de fantasmes aussi, ou de choses qui sont associées finalement à l'univers carcéral qu'on connaît sans connaître. Après, on comprend bien aussi pour les riverains ou pour même des rennais qui connaissent pour être passés en fait à proximité, donc ils connaissent le lieu, mais de se dire aussi, je suis vraiment intrigué de savoir que cachent en fait finalement ces murs d'enceinte. Et après, je dirais que c'est aussi quelque part, alors c'est peut-être maintenant subconscient dans nos réflexes ou de nos concitoyens, mais les journées du patrimoine, à l'origine, c'était d'aller dans des lieux qui d'ordinaire ne sont pas ouverts au public. Donc là, typiquement, oui, ça suscite un engouement fort, ça ouvre aussi la question et c'est toute la problématique ou l'enjeu d'ouvrir dans les années qui viennent un lieu comme celui-là et de quelle manière, en fait, on fait vivre aussi ce patrimoine. Et une coupole ici qui est assez. Une charpente plutôt intéressante, puisque c'est métal et bois. 31 décembre 1903, il y a un état des lieux qui est dressé, et ce sont 113 prisonniers qui sont enfermés ici, 93 hommes, 20 femmes. Et donc à l'époque, on a encore suffisamment de place pour accueillir d'autres détenus. Mais comme pour toutes les prisons, ça va aller en fait crescendo. Et on va finir par entasser 3 détenus par cellule.
Qu'est-ce qu'on fout de prison sans un ? Qu'est-ce qu'on fout de prison sans un ? Je te dis nous deux, même en cellule, je te dis des dingues qu'on était, même qu'on croyait aux libellules, descendu des lignes d'été.
Alors ici, on est dans la grande aile, finalement, qui traverse le bâtiment, qui compose le bâtiment du nord au sud, qui porte le nom de Grand Quartier. On a 3 niveaux. Et là, c'est vraiment l'aménagement, effectivement, des prisons de cette époque-là, des escaliers qui desservent des coursives, qui elles-mêmes distribuent l'accès, en fait, aux différentes cellules. Et puis, vous retrouvez le dispositif aussi qu'on trouve dans beaucoup de prisons, c'est-à-dire ces grands vides centraux. Ils sont bardés en fait de filets qui évitaient toute tentative de bascule finalement dans le vide ou même d'accident, hein, tout simplement en passant par-dessus les gardes-corps. Et donc il y a cette ambiance particulière aujourd'hui parce que c'est un côté sombre, assez glauque, parce que forcément ça fait 13 ans qu'il n'y a plus personne qui vit et travaille ici. C'est entretenu, mais ça se décatille avec le temps, ce qui est normal. Donc on voit toutes ces peintures qui sont écaillées, et ces portes de cellules qui sont très étroites, et qui sont dotés en fait d'un judas qui permettait aux gardiens de jeter un coup d'œil dans la cellule pour voir si tout se passait au mieux. Et ce qui manque aujourd'hui, qui fait la vie dans les prisons aussi, surtout quand elle date de cette époque-là, c'est le bruit. Parce que souvent, que ce soit les gardiens ou les détenus, disent bien que constamment, ce sont des bruits de clés dans les serrures, de fermeture, de claquement en fait, des grilles.
Mais avec beaucoup d'écho.
Oui, beaucoup d'écho. Et on le voit ici aussi, les garde-corps, les coursives sont aussi en métal. Donc tout ça est froid et très sonore aussi.
Durant le week-end, d'autres lieux sont ouverts au public. Les visites, elles ont été prises d'assaut sur les réservations, donc a priori ça affiche complet. Il y aura notamment la salle de concert de l'UBU qui ouvrira, l'écomusée de la Bintinet, qui sont des lieux qui ont ouvert dans leur forme actuelle en 1987. À partir de quand est-ce qu'un élément rejoint le patrimoine ?
Alors, on serait tenté de dire que plus on avance, plus les délais se raccourcissent. Pour prendre un exemple assez typique, ce qui a été longtemps mis de côté, c'est le patrimoine dit industriel, édifié à partir du 19e siècle. Et donc, il y a eu une mise en lumière de ce patrimoine-là qui s'est opérée à partir des années 1970 et principalement 1980. Et donc, le temps passant, on a, alors c'est peut-être aussi symptomatique de ce ressenti ou de ce sentiment d'accélération en fait du temps ou des choses, mais que finalement des éléments architecturaux, on va dire plus récents dans leur construction, sont vite affichés comme étant patrimoniaux. Et à mon sens, il faut avoir une certaine forme de, c'est pas une réserve, mais sur un classement qui serait peut-être trop hâtif. Puisque après, ça va vite de dire « oui, on construit aujourd'hui le patrimoine de demain ». Ce qui est vrai pour partie, mais attention, il y a un processus, et nous-mêmes, nous en sommes les témoins finalement aujourd'hui, ce sont les générations qui viendront après, qui qualifieront ou pas ce que nous pourrions considérer comme patrimoine aujourd'hui. Et c'est l'avenir, en fait, qui le dira. Mais bon, on ne sera plus là pour le dire, quoi.
Il y a un chiffre aujourd'hui. On sait combien d'éléments sont identifiés comme étant des bâtiments du patrimoine à Rennes.
Alors, il y a plusieurs éléments, justement, qui permettent des classements entre, effectivement, tout ce qui peut être protégé par l'État. Et puis, ensuite, dans les plans locaux d'urbanisme qui sont intercommunaux, hein, on a aussi le volet patrimonial qui est pris en compte de manière plus accrue, je dirais. Ce qui permet aussi de mieux repérer ces éléments de patrimoine. Mais après, tout ça reste assez, je dirais, fragile, en ce sens où les collectivités publiques ne sont pas propriétaires de tout. Et donc, il faut aussi faire avec les différents témoins et les parties prenantes, de façon à ce que tout ça soit cohérent, quoi.
Je trouve que le patrimoine, aujourd'hui, il vient rencontrer deux questions majeures de société, comme dans un tas d'autres champs. Celle du matrimoine, puisque cette année, à l'échelle du département, les journées du patrimoine deviennent les journées du matrimoine et du patrimoine, journée européenne, avec une visite qui est proposée en ce sens durant le week-end. La deuxième question de société, je dirais que c'est la question environnementale, avec, on imagine, un défi majeur de rénovation thermique de ce patrimoine quand il est encore en utilisation ?
Alors, sur le premier point, depuis l'année dernière, les élus en charge de ces questions ont décidé de... Et donc, c'est vraiment une initiative locale qu'on peut voir aussi sur d'autres territoires en France, de requalifier d'une certaine manière ces journées en faisant apparaître la notion de matrimoine. Donc, ça sous-entend aussi une programmation qui est orientée matrimoine pour montrer aussi, le cas échéant, comment les femmes ont leur part aussi dans la construction, bien sûr, du patrimoine au sens large et comment elles aussi, elles ont pu transmettre aux générations suivantes. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Et l'autre point, eh bien, ce qui est assez intéressant finalement, c'est que le bâti ancien, souvent, offre de meilleures performances de régulation en fait thermique que du bâti contemporain. Et quelque part, il y a du bon sens dans tout ça. C'est que ce sont des bâtiments anciens, construits avec souvent des matériaux locaux, avec des matériaux naturels pour la plupart du temps. Donc une forme de solidité, un vieillissement naturel aussi des structures, mais quand on regarde sur la consommation en termes de fluide, sur le chauffage, ou comment ces bâtiments réagissent aussi par rapport au climat qui est complètement bouleversé à l'heure actuelle, on observe effectivement des qualités qui sont meilleures, et ça c'est aussi instructif. Quelque part, ça rejoint un peu l'idée que le patrimoine, à mon sens, il a une vertu, c'est qu'il prône l'humilité. C'est-à-dire que, effectivement, on fait des avancées techniques, technologiques, mais restons humbles par rapport à ce que nous produisons aujourd'hui, en observant ce dont on a hérité, parce que souvent, voilà, c'est tiré de l'observation, du bon sens, de la pratique, de la transmission. Pour prendre un exemple, alors, qu'on a vraiment dans notre bassin rennais, c'est l'habitat de terre, qui a des qualités thermiques et phoniques qui sont assez exceptionnelles si on compare avec des isolants, on va dire, contemporains qu'on utiliserait finalement dans la construction, qui offrent de moins bonnes qualités et qui en plus polluent de par leur production, de par la problématique de leur recyclage en fait après coup. Donc, on se dit que c'est au final, le patrimoine, c'est un des piliers aussi du développement durable, parce que pendant de nombreux siècles, ceux qui nous ont précédés ont agi de cette manière-là.
Mais oui, il ne fallait pas être très large.
Et puis parfois, on trouve des balles de tennis, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des yo-yo. C'est-à-dire qu'en les ouvrant, on peut glisser des messages dedans des choses et ça permet de communiquer avec d'autres détenus. Et puis on le verra dans la cour, il y a d'autres yo-yo qui sont faits à partir de bouteilles en fait en plastique dans lesquelles on mettait des choses aussi. Et qu'ensuite, d'où le terme de yo-yo, parce que ça monte, ça descend, on passe en fait d'une cellule à l'autre. Alors parfois ils loupaient leur coup et ça s'enroulait autour des esseliers en bois.
Okay.
Et il y en a encore beaucoup qui sont en place. Et ça, ce sont des témoins, en fait, qui sont intéressants, parce que ça évoque aussi un quotidien. Et puis, c'est un lieu de mémoire, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a plus d'un millier de prisonniers ici, avec dans les sous-sols, des pièces où des résistants qui sont passés par ici ont pu être torturés. Il y en a certains qui sont morts, d'ailleurs, des suites de leurs blessures-là. Donc, c'est aussi ça, la prison Jacques Cartier. Et donc, au débouché de cette grande aile nord-sud, on arrive dans les nouveaux quartiers qui ont été construits en 1971.
J'y retournerai un matin, j'y retournerai, c'est pas ma faute, mais j'y retournerai, c'est certain. Prison 101 ou bien une autre.
They're turning
The Door par Kendra Mori sur Canal B, une nouveauté musicale qui a été choisie pour vous par Yann, notre programmateur musical, et qu'on retrouve sur l'album I Am What I'm Waiting For. C'est sorti le 25 août sur le label Karma Chief et Coal Mine. Et il s'agit du cinquième disque pour cette chanteuse soul et R&B originaire de Brooklyn. Vous êtes encore